Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Hey, look out. This is the Diz. Dizzy Gillespie, that is.
C'est un anniversaire que nous allons célébrer cette semaine dans l'épopée. Le 21 octobre 1917, il y a donc 100 ans, la petite ville de Cherrow en Caroline du Sud voyait la naissance d'un futur géant de l'histoire du jazz. Il s'appelait Dizzy Gillespie et a bouleversé le paysage musical afro-américain tout au long du XXe siècle. Trompettiste, chef d'orchestre, compositeur, activiste, il a été l'un des hommes clés de l'épopée des musiques noires, d'abord aux États-Unis, puis dans le monde entier. Pour bien comprendre l'importance de ce personnage dans l'évolution culturelle de notre temps, il faut impérativement replacer en contexte l'époque à laquelle a grandi et vécu cette figure essentielle du jazz et des musiques noires en général. Dizzy Gillespie voit le jour dans le sud ségrégationniste d'une Amérique très raciste au début du XXe siècle. Tout gamin, il réalise que la couleur de sa peau le distingue dans cette société blanche dite dominante où les descendants d'esclaves sont encore des nègres que l'on traite comme des citoyens de seconde classe. Bien qu'il affiche un sourire innocent et une attitude plutôt sociable, Dizzy Gillespie va progressivement apprendre à résister aux humiliations. Sa meilleure défense devient la musique, dans laquelle il se plonge pour esquiver l'oppression et trouver un équilibre psychologique comme rempart aux brimades du quotidien. Avec quelques-uns de ses contemporains, Charlie Parker en tête, il invente une forme d'expression, le bebop, que les blancs ne peuvent pas comprendre. Il ne renie pas le swing docile de ses aînés, il acquiert seulement la posture d'un résistant qui, faute de pouvoir clamer haut et fort son statut de citoyen américain, revendique en musique sa place, son rôle, sa détermination de jeune trentenaire fougueux à faire évoluer les mentalités au cœur des années 40. Ce titre, Things to Come, enregistré par Dizzy Gillespie le 9 juillet 1946 à New York, est sans doute l'un des plus difficiles à interpréter pour tout soliste, même virtuose, sur cette planète. Cela démontre l'esprit frondeur de son auteur qui tentait de faire entendre sa colère à une époque où les Noirs étaient encore bâillonnés par l'administration blanche américaine. Dizzy Gillespie, insidieusement, fera avancer la cause du peuple noir aux États-Unis et son exemple inspirera de nombreux musiciens à travers la planète, comme le saxophoniste et chanteur nigérian Femi Kuti, qui aujourd'hui encore s'extasie devant cette avalanche de notes qui le dépasse et l'a encouragé à composer It's Only the Beginning, une réponse tout aussi trépidante à la cavalcade jazz de son aîné. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit « je ne serai jamais capable de jouer cette musique ». Mais il est vrai que le titre « It's Only the Beginning » est un hommage à cette musique née dans les années 40 aux États-Unis. J'aime beaucoup le jazz, mais l'afrobeat a pour moi plus de puissance rythmique et harmonique. J'ai longtemps écouté les disques de Dizzy Gillespie et de Charlie Parker et je considérais qu'il manquait cet ingrédient africain que l'on retrouve dans l'afrobeat. De plus, je n'avais pas la technique nécessaire pour comprendre leur musique. Mon père non plus d'ailleurs, il n'aurait jamais pu composer un titre exclusivement jazz. Aujourd'hui, je peux enfin appréhender leur musique parce que j'ai les connaissances jazz requises. Pour autant, je tiens à injecter la musicalité de mon père dans ma musique, c'est-à-dire une ligne de basse solide, un gimmick de guitare imparable, très éloigné de la complexité du jazz, mais tellement inscrit dans la tradition afrobeat. J'ai donc conservé ce socle africain auquel j'ai ajouté la force des cuivres du jazz américain pour mettre en évidence le lien ancestral qui unit les Noirs américains créateurs du bebop et les Noirs africains créateurs de l'afrobeat. Je tiens à vous dire que vous êtes le premier à avoir perçu la référence à Things to Come de Dizzy Gillespie dans mon titre It's Only the Beginning. Et je suis heureux que vous appréciez cela. Mon fils aussi a un faible pour ce titre qui conclut l'album. Je suis convaincu que dans 2 ou 3 ans, certains de mes plus fervents admirateurs redécouvriront ce titre-là avec encore plus d'enthousiasme. J'espère qu'il entrera dans le patrimoine noir comme certaines compositions de Dizzy Gillespie. Ce sont des trésors qui ne meurent jamais et que l'on ne cesse de réécouter. C'est comme tenir entre ses mains un carré d'as au poker. Au moment où l'on s'y attend le moins, vous abattez votre jeu et la partie est gagnée. C'est l'effet de surprise. Et puis ce titre est très court, très compliqué, très efficace. J'adore ça. And what amazed me was... I love it. Lorsque j'ai terminé l'écriture de cette composition, mon manager Saudi m'a demandé comment s'appelait ce titre. Je n'y avais vraiment pas pensé et je lui ai proposé It's Only the Beginning. Il a trouvé cela intéressant et finalement assez représentatif de ce que devait penser Dizzy Gillespie à son époque. En quelque sorte, ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour lui, comme pour moi.
Merci. Voici pour commencer, Dizzy.
Silence. Bonsoir, madame et monsieur et enfants. We'd like to start off this little set by playing one of our recent recordings, The Champ.
Nous sommes maintenant dans les années 50. La société américaine n'ayant toujours pas accepté d'accorder aux Noirs la liberté à laquelle ils aspirent, nombre d'entre eux trouvent refuge en Europe, et principalement en France, où l'air est plus respirable. Ce 9 février 1953, Dizzy Gillespie donne un concert à la Salle Pleyel à Paris, devant un public beaucoup plus enthousiaste et averti que de l'autre côté de l'Atlantique. Le bebop fait sensation et l'on se presse pour applaudir ces jazzmen venus d'Amérique. Les journalistes et critiques musicaux se montrent curieux, parfois circonspects, face à cette vague de jazz bebop qui déferle alors sur la France. Le journaliste Maurice Culaz réalise à cette époque divers reportages pour la RTF, la radio-télévision française, et accueille à son micro les spécialistes et les meilleurs instrumentistes du moment pour des interviews très décontractées dans les coulisses des grandes salles de spectacle parisiennes.
Un des événements de la saison parisienne du jazz est constitué par les 4 concerts que le JATP, la célèbre organisation JATP, c'est-à-dire Jazz at the Philharmonic, donne à Paris samedi et dimanche en matinée et en soirée. Maintenant, nous avons Dizzy Gillespie à côté de nous. Est-ce qu'il parle français? Vous parlez français?
Je comprends pas.
Je comprends pas. Donc, il parle, il comprend très bien. Dites-nous quelque chose en français. Say something in French.
Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais.
Hum a little tune for us. Chantez une petite chanson. Just four bars.
Four bars of what?
Of anything.
Say, ooh, shooby dooby, ooh, nothing. I'm the champagne that you're serving tonight.
Dizzy Gillespie nous fait l'éloge du champagne qui est servi ce soir. Et alors samedi et dimanche, tous les amateurs français de jazz seront à la fête. Dizzy Gillespie continue à célébrer les louanges du champagne.
Au milieu des années 50, Dizzy Gillespie semble montrer un intérêt croissant pour les musiques issues du continent africain et de la diaspora afroplanétaire. Bien qu'il soit encore très difficile de militer pour une identité communautaire forte aux États-Unis, une fois encore, la musique va devenir un vecteur d'émancipation et de contestation auquel les autorités devront faire face sans vraiment savoir comment y répondre. C'est ainsi qu'au fil des décennies, l'ouverture d'esprit de Dizzy Gillespie va distiller un parfum d'universalisme salvateur. Alors que le bouillonnement social agite le conservatisme américain au cœur des années 60, Dizzy Gillespie enfonce le clou en proposant une musique toujours plus multicolore et enracinée dans l'âme noire. Sa volonté d'être perçu comme un artiste altruiste, généreux et à l'écoute du monde est un pied de nez aux velléités belliqueuses de certains de ses contemporains. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il tente d'ouvrir les yeux et les oreilles d'une Amérique embourbée dans ses contradictions. Déjà en 1947, il s'était associé au percussionniste cubain Chano Pozo pour écrire un titre devenu un classique du jazz métis, Manteca. Le regretté percussionniste américain d'origine portoricaine Ray Barreto considérait ce disque entre Dizzy Gillespie et Chano Pozo comme la pierre angulaire des échanges interculturels dans le monde et le point de départ de sa propre destinée.
For me, Chano with Dizzy was important because that was the first.
Pour moi, Chano et Dizzy est le disque le plus important parce qu'il s'agit du premier 33 tours que j'ai découvert alors que j'étais un jeune soldat dans l'armée américaine. C'est la première fois que j'entendais des rythmes latins et cette nouvelle musique, le bebop, associée dans une forme musicale unique. C'est ce qui a créé ce désir d'être ce que je suis aujourd'hui. Ce fut la première inspiration, ce disque. Et il est crucial pour moi. Et puis cet enregistrement live à Pasadena, en Californie, exprime la liberté de jouer en public, sans les contraintes du studio. C'est tout l'esprit de Dizzy et de Chano Pozzo que l'on entend dans ce disque.
And you capture the spirit of both Dizzy and Chano Pozzo.
Quinze ans après Chano Pozzo, c'est Ray Barretto lui-même qui aura l'honneur de siéger dans l'orchestre de Dizzy Gillespie pour une nouvelle version de Manteca. Dès lors, la musique du trompettiste deviendra un arc-en-ciel sonore illuminé par les traditions culturelles d'instrumentistes venus de tous horizons. Le pianiste panaméen Danilo Pérez se souvient de sa rencontre avec le maestro. Je venais de remporter la demi-finale du concours de piano organisé par la Monk Institute et soudain, j'ai reçu un coup de fil du manager de Dizzy Gillespie. Je fus totalement surpris par cet appel car Dizzy voulait absolument que je le rejoigne à l'aéroport Kennedy. J'ai donc dû faire un choix cornélien, participer à la finale de la Monk Institute ou rejoindre Dizzy Gillespie. Et j'ai finalement rejoint Dizzy Gillespie. Son jeu était si créatif. Il inventait tellement de nouvelles façons d'interpréter le jazz. Il avait une telle science de l'harmonie que je l'ai toujours considéré comme un inventeur. Et être à ses côtés était particulièrement intimidant, même s'il était très chaleureux avec ses musiciens. Il a été très généreux avec moi. Je l'ai toujours considéré comme mon mentor, ce qu'il a été pour nombre d'entre nous. À la fin de sa vie, Dizzy Gillespie parcourait le monde avec son orchestre des Nations Unies et se faisait un plaisir de présenter aux spectateurs de la planète ses nouvelles recrues qu'il encourageait sur scène comme hors de scène. Le saxophoniste portoricain David Sanchez fut l'un des derniers jeunes virtuoses à avoir partagé des moments privilégiés avec le célèbre Dizzy Gillespie. J'ai tellement appris sur l'harmonie, le phrasé, mais avant toute chose, j'ai appris à m'impliquer, à me concentrer quand je joue sur scène. Il ne m'enseignait pas de façon très pédagogique, il jouait devant moi. Et quand on admire un musicien, on l'observe avec beaucoup d'attention. C'est soudainement un modèle. Ce fut l'un des géants du XXe siècle. Je le savais et j'apprenais mon métier en le regardant, en parlant avec lui, en laissant mon intuition me guider. Quand nous répétions certains passages, enfin je réalisais ce qu'il me manquait. C'est ainsi que l'on progresse et c'est la meilleure manière d'avancer. Au début, j'étais très intimidé. Je n'avais que 21 ans et j'étais effrayé par l'enjeu. En plus, j'arrivais de Porto Rico. Bref, tout un ensemble de choses qui vous fragilisent face à une légende. Mais il m'a très vite mis à l'aise. Il a joué d'égal à égal. Il me disait « Joue, amuse-toi, relaxe ». Il m'a décontracté l'esprit. Je sais qu'il m'apportait beaucoup, mais c'était tellement informel que je ne m'en rendais pas vraiment compte. En quelque sorte, je discutais avec un ami. Évidemment, il était mon professeur, mais il ne présentait pas les choses de manière didactique, jamais. Il préférait la légèreté, l'improvisation, la spontanéité. L'ultime tournée de Dizzy Gillespie en 1991 révéla certes quelques jeunes musiciens émérites comme David Sanchez, mais permit également au maestro d'inviter des amis de longue date sur scène. C'est ainsi que l'illustre Myriam Makeba lui fit le cadeau de chanter à ses côtés et de ravir le public qui ne s'y attendait pas vraiment. The Future, Dizzy Gillespie et Myriam Makeba, extrait du DVD A Night in Tunisia. Cette dernière tournée de Dizzy Gillespie passa par Paris le 1er juillet 1991. Et avant de monter sur scène, le trompettiste de 73 ans acceptait de répondre à quelques questions de journalistes réunis dans les coulisses de la Grande Halle de la Villette. Ce jour-là, j'eus le privilège de tendre mon micro à une vraie légende du jazz qui voulait évoquer en quelques mots son épopée et sa complicité avec sa sœur, Myriam Makeba.
That goes way back. I've known Myriam a long time. She was my neighbor.
La rencontre avec Myriam Makeba est une vieille histoire, puisque c'était une de mes voisines. La musique, par définition, part dans toutes les directions. Et je voulais jouer avec des Sud-Africains parce que je ne les connaissais pas. J'avais entendu Hugh Masekela et Myriam Makeba, et ce fut le déclic. Il fallait que j'insère cela dans ma musique. J'ai toujours joué une musique internationale, jamaïcaine, cubaine, brésilienne. J'ai même rencontré un jeune musicien originaire de... d'un petit pays, c'est une colonie américaine. Puerto Rico. J'aime bien jouer avec des jeunes musiciens.
Face à une personnalité majeure qui s'apprêtait à livrer l'une de ses dernières prestations à Paris, les questions s'entrechoquaient dans l'esprit du jeune journaliste peu aguerri que j'étais à l'époque. Alors spontanément, je lui ai demandé son meilleur souvenir.
The best thing I remember, Charlie Parker.
Mon meilleur souvenir, Charlie Parker. Il m'est souvent arrivé de jouer avec lui. Les prémices de la fusion, c'était lui. Et puis, il jouait le blues comme personne. Vous savez d'où je viens, il est très important de savoir faire la récolte du coton. Sinon, vous êtes fini. Le seul moyen de s'en sortir, c'est la musique.
Nous étions en 1991, Dizzy Gillespie avait 73 ans, et malgré le poids des années, il envisageait le 21e siècle.
J'aimerais vivre très longtemps. J'espère être capable de jouer d'ici l'an 2000.
À peine avait-il prononcé ces derniers mots, il reprit sa trompette et s'éloigna du micro pour répéter, avant de se produire une dernière fois devant le public parisien. 18 mois plus tard, il nous quittait à l'âge de 75 ans.
Our next tune is an original composition of mine that was inspired by and dedicated to Mother Africa. Mama Africa. We hope this one will make some of you feel more or less at home.
C'est ainsi que s'achève cet hommage à Dizzy Gillespie qui aurait eu 100 ans ce 21 octobre 2017 et que vous pourrez retrouver à travers un coffret 3 CD intitulé The Extravagant Mr. Gillespie, disponible le 17 novembre chez Crystal Records et concocté par un connaisseur incontestable, le pianiste, homme de radio et ancien président de l'Académie du Jazz, Claude Carrière. La semaine prochaine, nous continuerons à célébrer les musiques afro-métis en compagnie de deux percussionnistes et batteurs guadeloupéens de grande valeur, Sonny Troupé et Arnaud Dolmen, qui présenteront respectivement « Reflet danse » et « Tombé levé », deux albums fort recommandables. D'ici là, profitez des derniers jours du festival Jazz sur scène en région parisienne jusqu'au 28 octobre. Vous pourrez notamment savourer les prestations de Mario Canonge, Leila Makkala, Karim Blal en hommage à Monk, Francis Lockwood en hommage à Jimi Hendrix ou Roger Biwondu en hommage à Al Jarreau. Bref, toute l'épopée des musiques noires. Merci à Nathalie Laporte d'avoir épousté les archives du jazz fournies généreusement par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.